radyo yaptık, açık radyo yaptık, değil mi?
Sanat bir yerde görünmezi dışarıya çıkarmak için bir uğraştı.
Birdir peygamber hak, Rabbil alemin İslam.
Tamam anne, ben diyeyim.
Senlik, benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Kürdü, Türk'ü, Neşerkez'i, Rab Adem'in oğlu kızı.
Bonjour à tous, bienvenue à l'Alhambra pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette troisième partie de notre soirée intitulée Marseille-Istanbul, capitale en regard, une soirée qui s'inscrit dans la programmation d'Istanbul à facettes. Après Istanbul, le sac de la sorcière, documentaire sonore réalisé à Istanbul, voici maintenant un moment de débat autour des capitales culturelles européennes. L'enjeu de ce débat n'étant pas tant de comparer les deux projets ni les deux villes, qui sont vraiment incomparables l'une et l'autre, mais plutôt de capitaliser les expériences, bonnes ou moins bonnes, d'Istanbul 2010, pour donner peut-être des pistes de réflexion et, qui sait, d'inflexion du projet Marseille-Provence 2013, afin peut-être de lui éviter de retrouver des travers ou des difficultés qui semble désormais récurrente aux capitales culturelles européennes. Nous sommes ensemble pour une petite heure, à peu près, en compagnie de Yeshimi Alman, qui est chargé des cultures urbaines au sein de Istanbul 2010, de Ulrich Fuchs, qui est directeur adjoint de Marseille-Provence 2013, après avoir été directeur adjoint de Linz 2009, une autre capitale culturelle européenne. Boris Grésillon, géographe, enseignant-chercheur à l'Université de Provence et dont les recherches portent notamment sur la géographie culturelle. Et puis Bruno Le Dantec, auteur, entre autres, de « La ville sans nom, Marseille dans la bouche de ceux qui l'assassinent », un livre paru en 2007 chez Le Chien Rouge. Et puis à la traduction, Julie Demuer. Je vous propose que nous entamions le débat pour 35 à 40 minutes environ, autour de quelques questions qui nous ont paru pertinentes au regard du thème de cette soirée. Peut-être pour ensuite élargir ce débat et puis vous donner la parole pour questionner les différents intervenants de ce plateau. Si on voulait résumer en deux mots le bilan d'Istanbul 2010, ce serait probablement bilan mitigé. En effet, si Sekip Avdagic, président de l'association Istanbul 2010, estime avoir, je cite, « accompli un projet de grande importance », de nombreuses critiques ont porté notamment sur l'évolution de ce projet, issu dans un premier temps d'une initiative de la société civile et puis, on pourrait dire, repris en main par les institutions locales ou nationales, par les politiques. Ce qui a amené par exemple Beral Madra, curateur d'exposition, à affirmer qu'Istanbul 2010 était devenu, je cite là aussi, bureaucratique et introverti. Ou bien encore Johan Morvan, chercheur à l'Observatoire urbain d'Istanbul, a parlé, je cite encore, d'institutionnalisation et de sclérose. Quant à lui, Koran Gümüş, architecte célèbre à Istanbul et un des initiateurs de ce projet de capitale culturelle européenne, déclarait peu avant l'année capitale et un peu dépité, maintenant, chacun joue pour son propre camp. Alors peut-être pour démarrer ce débat, parole à Yeshimi Alman qui vient de loin pour nous rejoindre ici à Marseille sur ce plateau. Yeshim, votre réaction à propos de ces critiques concernant l'accaparement du projet d'Istanbul 2010 par le ou les pouvoirs politiques, Yeshimi Alman.
I think I should start that this 2010 Istanbul project started as a civic project from an NGO,
Tout d'abord, je voudrais quand même rappeler que, contrairement à ici, le projet de capitale européenne de la culture à Istanbul est né de la société civile et du regroupement d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, qui est là-bas l'équivalent de ce qu'on appelle ici les associations. Donc c'est venu, c'est un projet qui a été porté plutôt par la société civile. Quand il s'est avéré qu'on a eu le titre, toutes ces organisations et cette société civile se sont rendues compte qu'ils n'étaient pas en capacité, notamment de trouver les financements et les financements privés, puisque la Turquie fonctionne beaucoup sur une économie privée. Pour mener à bien ce projet-là. Et c'est donc à ce moment-là qu'ils se sont tournés et qu'ils sont partis vers Ankara pour se tourner vers les acteurs politiques et le gouvernement pour leur demander notamment de soutenir financièrement le projet. Mais à partir de ce moment-là, du moment où on commence à demander de l'argent public, on est obligé de le dépenser en suivant un certain nombre de règles qui sont édictées par le gouvernement.
This was the point where we from the civic side was, it was the first time that we met the people from Ankara, from the politics, and we tried to work together, to understand each other, to know each other. And this was the point where we all learned a lot, I think.
Donc, quand Yeshim parle en tant que quelqu'un qui vient de la société civile et qui a co-porté ce projet dans sa dimension citoyenne au départ. Et donc, quand ils sont arrivés à Ankara avec leur projet, c'était la première fois qu'ils allaient à Ankara rencontrer le personnel politique. Et ça a été une forme de choc culturel où il a fallu qu'ils apprennent à se connaître, à discuter, à se rencontrer. Je pense qu'ils ont beaucoup appris de ce processus-là, qui est sans doute un processus plus invisible. Elle dit qu'elle parle aussi librement aujourd'hui, puisque le projet étant fini, elle n'est plus salariée d'Istanbul 2010. Ce qu'elle en dit, c'est quand même que ça n'a pas été aussi catastrophique que ce qu'on peut parfois dire en regardant les choses un peu de l'extérieur, mais que c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de batailles internes sur les modes de production et sur la manière dont le personnel étatique ou des institutions les manageait. Et donc sur la manière de produire et de dépenser l'argent a fait l'objet effectivement de beaucoup de conflits internes.
I need to say something about Turkey.
Elle rappelle qu'en Turquie, il n'y a pas de fonds publics et de subventions comme chez nous, et que l'économie de la culture est principalement basée sur l'économie privée, que ce soit par un système très développé de fondations ou de sponsorship, mais qu'à chaque fois, ils doivent aller chercher leur argent et que les institutions publiques ne sont pas vraiment des interlocuteurs traditionnellement dans l'économie de la culture.
Alors, Ouli Fuchs, on peut espérer qu'à l'échéance de 2013, il y aura encore quelques subventions en France pour les projets culturels. Peut-être quelques mots sur la relation de Marseille-Provence 2013 aux politiques. On sait qu'au cours de la candidature et puis au cours de ces derniers mois notamment, elle s'est avérée plutôt complexe et plutôt pleine de rebondissements. Alors sur l'indépendance de l'association Marseille-Provence 2013 à l'égard des institutions et des politiques, on y croit ?
Concernant les relations entre la politique et l'association, heureusement, on est une association et pas un service de la ville de Marseille ou d'un département culturel, d'une collectivité territoriale. Là, déjà, il y a une certaine indépendance. Mais j'avoue que concernant
Mais est-ce que la pression politique ne se fait pas quand même de plus en plus forte?
Oui, c'est ce que je voulais dire. Alors, j'avoue que il y a à Marseille, dans les statuts et dans la charte de l'association, il y a une certaine ambiguïté concernant le rôle ou les relations entre la politique et la direction artistique du projet. Et ça, quand j'étais demandé à venir à Marseille, de Linz, j'ai hésité pour ces raisons-là. parce qu'on avait, moi j'avais à Linz, avec mon collègue qui était directeur artistique du projet, on avait dans nos contrats de travail l'indépendance artistique sur les choix du programme de Linz 09. Et là, à Marseille, dans les statuts de l'association, il y a une certaine ambiguïté. Dans les statuts, il y a, d'un côté, on parle de l'indépendance artistique de la direction de l'association. D'autre côté, on parle toujours de la validation du programme par le conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est la politique.
Yeshim Yalman.
To be independent, we had an artistic committee from 12 directors of artistic departments, let me say cinema, music.
Donc là, juste sur la question de l'indépendance, donc c'était organisé via des comités artistiques qui étaient plutôt par champ de discipline. Donc Yeshim, en fait, était en responsabilité justement du comité cultures urbaines. Et sur ces 12 conseils, uniquement un était clairement politique, tenu par l'institution. Les 12 autres étaient tenus par des gens, des directeurs artistiques et avec des, également des associations. Mais effectivement, au-dessus d'eux, il y avait un conseil d'administration qui, un petit peu comme dans le cas de 2013, était composé de gros élus, notamment, donc pas que de Istanbul, aussi de Ankara, et sur lequel, effectivement, il y a nécessité d'y avoir aussi un principe de validation de ce conseil d'administration au niveau de ce qui était évalué par les comités artistiques.
Sur cette question de l'indépendance à l'égard des politiques toujours, Bruno Le Dantec.
Moi, pour commencer, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste de la culture. Je ne suis pas un grand connaisseur, mais bon, je pense que...
Mais Marseille assassiné par ses politiques, ça, vous en êtes connaisseur.
Oui, et d'ailleurs, je sors mes petites citations. Là, je dis donc, je vous ai dit que je n'étais pas un spécialiste de la culture. Je ne l'ai pas dit au hasard. C'est parce que j'ai lu récemment donc le contenu d'une conférence de presse de Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier, et donc qui est Monsieur 2013 à la mairie de Marseille. J'ai été frappé par sa déclaration ce jour-là. Donc c'était en décembre 2010. Il disait donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste de la culture, mais je sais où sont les enjeux. Aujourd'hui, il n'y a pas de développement économique sans offre culturelle. C'est le secteur qui porte. Il nous faut montrer ce qui marche à Marseille, changer son image, rompre avec la caricature qui perdure au fil du temps, celle d'une ville de grévistes. Il y a eu d'autres sorties, par exemple de Serge Bottet, qui a été adjoint de M. Gaudin à la culture, jusqu'aux dernières municipales, qui avait dit aussi la culture, ça sert à attirer les cadres supérieurs et les touristes. Je me sers de ces citations pour questionner effectivement l'indépendance que peut avoir un gros montage, une grosse opération comme Marseille-Provence 2013. Et donc, il faut savoir qu'effectivement, Marseille 2013... va être utilisé dans un en particulier, donc M. Gaudin a dit que ça allait être un accélérateur des mutations urbaines et en particulier du programme Euro-Méditerranée. Et ça, donc je pense qu'on y reviendra après. Il faudra, je pense vraiment réellement, se poser la question de qu'est-ce que la culture. Il y a plusieurs conceptions.
On va y revenir, ça va être un deuxième axe de réflexion. Je voudrais peut-être proposer tout de suite à...
Et à quoi elle sert ?
Je voudrais peut-être proposer tout de suite à Ulrich Fuchs de réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ce florilège d'intervention de nos élus.
Volontiers. Alors moi, j'ai le privilège d'arriver de l'extérieur. Moi, sans que j'ai une sympathie particulière avec... Monsieur Muselier, mais c'est pas faux ce qu'il dit. Certainement, il y a une relation entre l'économie et la culture. Et alors, prendre une position de dire la culture, c'est complètement déconnecté du question du développement urbain ou de l'économie, c'est à mon avis, c'est totalement obsolète, cette position. Je nie pas qu'il y a aussi le risque d'une instrumentalisation du projet par la politique, par l'économie, etc. Mais il y a aussi une grande chance.
Et comment on résiste à cette volonté d'instrumentalisation ?
Alors, peut-être comment on la contourne ? vous vous imaginez qu'on reçoit tous les jours un appel de Monsieur Muselier qui dit alors moi j'ai un copain qui veut réaliser ce projet-là et il faut que vous le réalisiez, etc. C'est pas comme ça. Mais il n'y a pas une influence directe de la politique sur notre travail, jusqu'à maintenant.
Pour conclure sur ce premier questionnement autour de l'indépendance à l'égard des politiques, peut-être Boris Grésillon.
Oui, je crois qu'il faut essayer de prendre un peu de recul dans ces grosses machines que sont les capitales européennes de la culture. Bruno Le Dantec a évoqué une position, Ulrich Fuchs une autre. Ce qui est évident, c'est que on se rend compte que quelle que soit la capitale européenne de la culture en question, les enjeux dépassent de loin l'enjeu même de l'art et de la culture. Et c'est ce qui fausse un peu la donne, c'est ce qui fausse aussi nos jugements, c'est ce qui fausse les regards. On peut s'en désoler, hein, bien sûr, mais moi je suis pas là pour porter des jugements de valeur. L'art, la culture, la création artistique, les événements qui sont mis en branle au moment de la capitale, de l'année capitale, sont en fait des faire-valoir pour tout un tas d'autres choses qui sont, aux yeux des politiques, beaucoup plus importantes. Qui sont la mise en tourisme, une expression affreuse de la ville, qui sont l'amélioration de l'image de la ville. Et là, Marseille a évidemment beaucoup de pense-t-elle, de retard à rattraper, qui sont aussi des questions de requalification urbaine, de revalorisation sociale, donc des enjeux gigantesques qui viennent interférer avec l'enjeu premier, quand même, hein, me semble-t-il, d'organiser des événements festif et culturel pendant une année capitale. L'autre problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un autre type de collision qui est d'ordre temporel. C'est-à-dire que les enjeux dont je parle, tous les autres enjeux autres que celui premier d'organiser des événements, sont des enjeux à horizon au moins 10 ans. Et ça entre en collision avec quelque chose qui est par nature éphémère. C'est-à-dire la temporalité éphémère d'une année culturelle qui va commencer le 1er janvier et dont les lampions vont se terminer au 31 décembre. Et c'est très compliqué, je pense, y compris pour l'équipe organisatrice, de jongler avec ces enjeux parce qu'ils ne sont pas non plus responsables, heureusement, de tout ça. Sinon, ce serait des deus ex machina. Hein. Ce n'est pas le cas. Mais par contre, ils ont aussi conscience qu'on va en permanence leur poser à eux la question de attention à la gentrification, la question de attention à l'image que 2013 va évidemment changer, la question de savoir si les flots de touristes attendus vont pas eux aussi déferler sur Marseille et à la limite on saura même pas où les mettre, donc la question des infrastructures hein, aussi hôtelières, donc des enjeux, je le répète, des enjeux urbanistiques et même presque des enjeux de société qui dépasse complètement l'enjeu premier de l'organisation d'un tel événement. Je termine en disant simplement que si on a le recul nécessaire pour considérer ce que je viens de dire, on comprend que l'organisation d'une capitale européenne de la culture est tout sauf un long fleuve tranquille.
Deuxième questionnement est très classique au fond à propos des capitales culturelles, puisqu'on a l'impression que à chaque fois se repose cette même question de ce qui fait culture. À qui s'adresse ces manifestations qui sont proposées. Sur les 588 projets qui ont été labellisés pour Istanbul 2010, il semble que beaucoup d'entre eux ont été perçus comme s'adressant précisément à une élite culturelle. Les expositions à Central Istanbul, le concert de U2, de nombreux projets aussi localisés sur le patrimoine architectural de la ville, mais au fond assez peu en dialogue avec la société civile, avec le peuple d'Istanbul. Alors peut-être une question à Yeşim Yalman, comment on fait pour éviter que s'opposent les questions de culture savante et de culture populaire dans ces projets de capital culturel? Yeşim Yalman.
First I have to say, pity is in 2010 that our jobs was finished at the 3rd of January. It was like we were like born in the first day in 2010 and we finished the last day of 2010 and everything was almost forgotten. This is a pity and we're still debating and doing, and I think this is something which is really something which is really more important than the thing what we have done in 2010.
Donc, Yeshim précise que, en fait, les gens qui, donc, comme elle travaillait pour Istanbul 2010, ont été licenciés ou en tout cas ont fini leur contrat au 3 janvier. Donc, ils sont nés un 1er janvier, ils sont morts un 3 janvier. Et donc, elle ne disait pas ça pour une histoire personnelle, mais sur la question de la durabilité des projets, qui faisait que, bon, même si effectivement le plus grand nombre des projets on visait soit des populations dites des élites culturelles, soit les consommateurs des industries culturelles, qu'elles soient musicales, cinématographiques, enfin industries culturelles. Ils ont quand même mené un certain nombre de projets dans la rue, dans les quartiers. Elle rappelle à ce titre, quand même, pour nous Français et Marseillais, de se figurer que Istanbul est une ville d'environ 20 millions d'habitants, avec 39 différentes municipalités locales qui sont tout autant des villes, et que de travailler à cette échelle-là, c'est quelque chose de même pour eux assez inimaginable. Elle, ce qui lui pose le plus de problèmes, c'est le fait que sur ces quelques projets, ce n'est pas tant qu'il n'y en a pas eu assez, mais que sur ces quelques projets qui ont pu exister au travers de l'année capitale, dans la rue, dans ces quartiers, notamment en direction des femmes et des enfants, qui ont été quand même les personnes avec lesquelles ils ont choisi en priorité de travailler, ce sont des projets qui ont été stoppés net à la fin de l'année capitale. Et donc actuellement, en tant que citoyenne et avec un certain nombre d'autres personnes qui sont indépendants, ils essaient de se battre et de trouver des manières de pouvoir donner des suites et de la durabilité à ces projets-là, en tout cas un certain nombre.
Alors, on a évoqué tout à l'heure la question du tourisme. Les capitales culturelles, ça sert à amener des palanquées de touristes, culture et tourisme. Une capitale culturelle, c'est avant tout l'occasion pour une ville de province de parader, de se faire belle et s'inscrire sur les cartes touristiques. C'est une citation de Rebecca Walker, qui est géographe culturelle et travaille pour l'Université d'Édimbourg. Boris Crézillon, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion d'une collègue à vous ?
Il y a deux questions qui, me semble-t-il, sont, alors pour le coup, essentielles dans l'organisation d'une capitale européenne de la culture. C'est premièrement la question de la création artistique, qu'on oublie tout le temps. C'est la façon dont une capitale européenne de la culture va faire sens ou pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire, finalement, artistiquement, esthétiquement, intellectuellement ? Et pour ça, il n'y a qu'une catégorie de la population qui peut y répondre, ce sont, me semble-t-il, les créateurs, et pas les créatifs. Hein, ce n'est pas du tout la même chose, les créatifs qu'on cherche à attirer, comme les touristes et comme les investisseurs. Bon, ça, c'est le premier point qui est très important. La deuxième question qui est posée à toute ville qui cherche à organiser un événement, hein, au-delà même du label Capitale européenne de la culture, c'est la question du lien. Parce qu'on ne peut pas se dire, à la fois, en l'occurrence en 2013, capitale de l'euro-méditerranée, et en même temps, avec une volonté forte de faire participer les Marseillais à un tel événement, sans se poser fondamentalement la question du lien. Or, deux choses sur Marseille. Premièrement, c'est la seule ville où, en France en tout cas, et même finalement presque en Europe aujourd'hui, en tout cas en Europe du Nord, où les pauvres habitent encore en centre-ville. Mais c'est très important parce que c'est aussi une forme d'intégration difficile, mais peut-être plus permise qu'en lointaine périphérie. Mais deuxièmement, Marseille, c'est aussi la ville où les différentiels de richesse sont les plus importants en France. Donc dans ce contexte-là, poser la question du lien, ça devient une question fondamentale. Et est-ce que la culture à elle seule, ou plutôt est-ce qu'un événement culturel peut faire lien un peu et peut relier différentes parties de la population de cette ville cosmopolite qui n'ont pas l'habitude de se parler ni même de se croiser ? C'est une grande question à laquelle, à mon avis, on serait prétentieux de répondre par l'affirmative.
Cette question du lien, Ulrich Fuchs.
Moi, je vois pas d'ailleurs vraiment une grande différence ou une contradiction entre l'objectif de créer un produit et en même temps de utiliser ce produit culturel comme lien dans la population. Alors ça s'exclut pas réciproquement. On a essayé. Déjà dans le dossier de la candidature, mais maintenant aussi dans la mise en œuvre de la programmation, de répondre à ces deux objectifs avec deux programmes spécifiques qui ont déjà commencé dans la perspective de 2013. C'est concernant la création artistique. Ce sont les ateliers hors Méditerranée. Et le deuxième volet de la programmation sont les actions participation citoyenne. On a une équipe de 4 personnes qui travaillent déjà avec les scolaires, avec les associations. Et moi, je ne suis pas très intéressé à question tourisme non plus.
Ben heureusement, juste avant de passer la parole à Bruno Le Dantec, peut-être pour conclure sur ce deuxième axe de réflexion, heureusement parce que si on regarde les chiffres, Istanbul 2010 est un échec touristique. 7,31% de régression de la fréquentation de cette ville par rapport à l'année précédente. Peut-être par rapport à ce deuxième axe de discussion, Bruno Le Dantec.
La question du lien, donc. Moi, peut-être un peu par provocation, je dirais que le lien, ça ne mange pas de pain. C'est quelque chose d'important, évidemment, mais c'est très galvaudé, je trouve. Et moi, je reviendrai pour donner un peu de chair à ce lien. Il faut revenir à qu'est-ce que c'est la culture. Et on me parle de culture. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pas une sphère d'activité séparée du reste de l'activité sociale. C'est, je pense, à l'ambiance dans la rue, une manière de voir la vie, une manière de vivre ensemble, une manière de communiquer, une mémoire collective. Et la principale acception ici en France de la culture, c'est quelque chose de beaucoup plus, ça vient beaucoup plus académique, c'est l'ensemble de connaissances acquises permettant de développer le goût, le bon goût. Et donc, c'est deux sens complètement différents. Il y a une culture qui vient d'en haut, et puis il y a l'autre acceptation, qui est une culture qui, au contraire, sort du territoire où elle naît et qui vient du sol. Et dans le cas de Marseille 2013, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un choc entre cette culture qui descend qui vient du ciel, une culture que j'appellerais hors sol, qui est décrétée depuis Bruxelles, qu'on amène, et une culture locale qui existe, qui est là. Les pouvoirs politiques ici mènent la guerre contre ces cultures-là.
C'est quoi la culture? Et peut-être en prolongement de cette question, et c'est le troisième axe de réflexion pour cette discussion, avant très vite de donner la parole à la salle. À quoi ça sert, une capitale culturelle? Est-ce que ça doit momentanément produire des événements, des feux d'artifice, quelque chose qui est de nature à se construire ou à se reconstruire une image? Ou bien est-ce qu'il faut au contraire essayer de privilégier le développement de projets pérennes, de projets durables, au-delà de l'année capitale culturelle? Alors, si chacun s'accorde à penser que à Istanbul, la vie culturelle est aujourd'hui très active, c'est une ville très féconde, selon Murat Germen, qui est un photographe très célèbre en Turquie, cela vient d'un mouvement qui a été initié il y a plus de 10 ans, et ça n'est en aucun cas le fait de la capitale culturelle. Alors, tour de table, et pour conclure cette discussion, à quoi ça sert une capitale culturelle? Yeshim Yalman?
As a shortcut, what is the benefit of a capital of culture? To whom? That's an issue. I think as a citizen it's important to understand what is culture, what is a capital of culture. Then you have, as a just a simple citizen, I was not like
elle,
always.
Elle
like,
a rejoint l'équipe assez tardivement et que donc elle a vu aussi le projet se monter en tant que simple citoyenne et que donc on ressent le fait que quelque chose effectivement est en train de se fabriquer au-dessus de nous.
I think after finishing a story or an experiment like that, I think the most important thing is the accessibility to culture.
Donc, puisque en fait elle répondait à la question de, en gros, à quoi ça sert, mais elle disait bon, alors déjà que ça qu'il fallait sans doute se poser la question d'à quoi ça sert à partir d'où on parle. Quand on parle en tant que citoyen, et c'est pour ça qu'elle reprécisait qu'elle avait quand même vécu une partie du développement de ce projet-là en étant dans cette posture-là, effectivement, la question de de à la fois l'accessibilité et d'où ça vient est effectivement une question fondamentale. Et il faut que ça serve à pouvoir mieux s'approprier ou pouvoir mieux valoriser à partir de là où on est de son rôle de citoyen. Après, elle dit quand on est producteur ou manager de projet, elle pense que pour que ça ait un sens dans le à quoi ça sert, c'est d'avoir le sentiment qu'à un moment on arrive à soutenir des projets qui n'auraient jamais pu trouver une chance d'exister et qu'elle, en tout cas, elle trouvait le sens à ça, à pouvoir à un moment participer à ce qu'un projet qui, dans des terminologies ou dans un cadre habituel, n'aurait pas pu voir le jour, que ce soit sur des terminologies artistiques ou sociales ou politiques. Et si elle se place de manière supposée du côté des élus, elle imagine que pour eux, à un moment, le fait qu'effectivement ça permette de parler à un autre niveau et notamment dans un jeu de mise en dialogue européen, c'est quelque chose qui a du sens et qui est important et qui sert aussi, qui peut servir à ça.
I want to add one more sentence because, as I understood, he was saying it was an issue here too in this table, and it is an issue of the capitals of cultures, and it is an issue of the culture in the future, I think. Culture is a major point in the new kind of economic. After the industrial economic had this top and went down, culture is now one of the numbers in a city, in a state,
par rapport à ce qu'elle avait vaguement compris de ce que racontait Bruno et de son questionnement sur justement la définition de la culture, dès qu'effectivement elle avait le sentiment qu'aujourd'hui on se piégeait beaucoup dans les mots et qu'aujourd'hui c'était factuel, la culture était effectivement un élément parmi d'autres pour assurer un développement économique et qu'il était conçu et listé comme tel et qu'il peut-être fallait s'échapper du coup de ce mot-là qui devenait trop marqué par rapport à l'époque contemporaine pour revenir à peut-être nommer les choses plus factuellement un moment en nommant on parle de cinéma, on parle de mode, on parle de son dans la rue, on parle de... et que peut-être ça permettrait par moment aussi de sortir de quelques malentendus autour de terminologie et de la sémantique.
Ulrich Fuchs, ça sert à quoi une capitale culturelle, économie de la culture, marchandisation de la culture ?
Premièrement, j'aimerais bien dire c'est une aventure risquée, ça, comme tout investissement d'ailleurs. Hein, il y a la possibilité d'une réussite et d'un échec. Moi, je crois, pour moi, concernant mes expériences que j'ai, il y a peut-être deux paramètres qui peuvent montrer, l'objectif et un succès. Si on arrive à répondre, pas peut-être directement après l'année de la capitale, mais quelques années après, oui, il y avait un bénéfice de cette opération pour les citoyens de la ville et pour les acteurs culturels locaux. C'est la première partie de cette réponse. Et la deuxième, et à mon avis, elle est également très importante. L'Europe a gagné quelque chose du fait que cette ville était capitale européenne de la culture. Je crois qu'on parle très souvent justement de la capitale culturelle. Il ne faut pas oublier, c'est capitale européenne de la culture, européenne de la culture. Ça veut dire, il y a, dès le début...
Et non pas capitale d'une culture européenne.
Exactement. Il y a, dès le début, il y a aussi un objectif concernant le rôle de l'Europe, le renforcement de l'identité européenne, de la dimension européenne. Il faut avoir la possibilité de répondre à cette question, qu'est-ce que en 2014, 15, 16... Qu'est-ce que le projet de Marseille-Provence 2013 a apporté à l'Europe? Et si on n'a pas une bonne réponse, je prends personnellement une responsabilité d'un échec.
Boris Casillon.
Oui, bon, c'est évidemment une question vaste, hein, un peu piège. À quoi ça sert une capitale européenne de la culture? Bon, je crois que notre collègue turc a donné d'emblée la bonne réponse, c'est-à-dire que tout dépend de qui pose cette question. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, une capitale européenne de la culture, ça sert à faire venir des touristes et des investisseurs, c'est clair. Pour des artistes, une capitale européenne de la culture, bah, ça sert, si possible, à créer, avec peut-être parfois quand même un peu plus de moyens que d'habitude. Moi, pour pas esquiver la question, je dirais deux choses aussi. De manière un peu provocatrice, tout d'abord, je dirais qu'une capitale européenne de la culture, eh bien, ça sert à cliver encore un peu plus la société locale. Mais j'ai envie de dire, mais je rajoute, c'est pas grave. Parce que ce qui est intéressant, c'est la mise en tension. Je m'explique. L'île 2004 a été, nous dit-on, un succès. Et c'est vrai en chiffres, j'allais dire. Bon, pour autant, même à l'île 2004, il y a eu pas mal de tensions, de conflits. C'est pas très grave qu'il y ait, par exemple, un off à Marseille 2013. C'est même plutôt bien. Moi, je trouve que c'est un signe d'une double vitalité. C'est le signe de la vitalité, malgré tout aussi du in, qui fait réagir les autres qui veulent créer un off. Et puis, c'est très bien, après tout. Donc, c'est ma première réponse. Et la deuxième, un peu plus attendue peut-être, mais qui n'est pas contradictoire avec ma première réponse, c'est qu'une capitale européenne de la culture, quand ça marche, mais c'est pas évident, et ben, je pense fondamentalement, sans être idéaliste, que ça sert malgré tout à créer du lien. Alors je m'explique, parce que tout à l'heure j'ai pas eu le temps. Voilà. Par exemple, je reprends l'exemple de l'île 2004. Bon, ce qui reste de l'île 2004 aujourd'hui, c'est les maisons folies. Ben, les maisons folies, moi il se trouve que je les connais, c'est-à-dire des centres culturels de quartier. Non seulement c'est un équipement pérenne, mais c'est un équipement qui a le mérite d'exister et qui est dans des quartiers quand même difficiles. Et qui d'ailleurs, qui n'ont pas été investis par une espèce d'élite cultivée qui viendrait d'ailleurs, mais qui sont gérés par des gens de ces quartiers à destination des habitants, y compris pour organiser un mariage ou un bal ou de quartier ou je ne sais quoi. Ce qui existe aussi, mais qui est totalement invisible, et c'est apporté au crédit quand même de Marseille-Provence 2013, ce sont des ateliers de l'Euroméditerranée, sous la forme, par exemple, je l'ai lu hier dans la presse, sous la forme par exemple d'un artiste écrivain du monde arabe qui en ce moment fait un boulot remarquable au collège Edgar Quinet à la Belle de Mai, avec des élèves qui en temps normal, on sait bien, n'auraient pas accès à un contact direct avec un écrivain. Donc si une capitale européenne de la culture arrive à mettre en branle, comme le disait notre collègue turc, ce genre d'énergie, j'allais dire de dynamisme, qui en temps normal ne voit pas le jour, eh ben, ça c'est important, ça aura servi à ça.
Bruno Le Dantec.
Moi, parce que j'aime bien être positif, je finirai sur ce qui existe. Justement, j'ai parlé de culture locale au pluriel. Moi, j'aimerais citer simplement ce que j'appelle de la culture. C'est pas événementiel, mais c'est des moments qui me semble important dans la culture locale. J'ai parlé tout à l'heure du marché du soleil qui a brûlé et qui a été réoccupé par ces commerçants lassés d'être à l'intempérie et sans qu'on leur offre de solution. Le jour où ils ont réoccupé la partie non sinistrée du marché du soleil, ils ont tendu une banderole à l'entrée en comparant leur lutte avec celle des ouvriers de Caterpillar. C'était à l'époque la lutte contre une délocalisation qu'il y avait, je crois, dans la région lyonnaise, si je me trompe pas. Je trouve que dans un pays où, depuis les plus hautes sphères, on essayait de dresser les gens les uns contre les autres et de dire que le problème, c'est les musulmans, le problème, c'est les fonctionnaires, le problème, c'est ceci, le problème, c'est cela, je trouve que c'est une belle attitude. Je pense que ça, c'est de la culture. C'est une culture populaire qui cherche la reconnaissance entre et le lien. Et à l'inverse, par exemple, les marins de la SNCM qui refusent d'embarquer les sans-papiers en voie d'expulsion. Je trouve que c'est aussi un beau geste. Et ça, c'est de la culture aussi. Certains ont crié au scandale, mais pour conclure, quoi, je pense que l'attitude ne venait pas d'ouvriers incultes, Mais le coup de gueule des métallos du port qui ont fait, il y a 2 ans, je crois, capoter une partie du Festival de Marseille qui allait être organisée dans un hangar du port en disant « on ne dansera pas sur un cimetière ». Parce qu'ils étaient en lutte contre la casse de leur outil de travail, ben je trouve que ça aussi c'est de la culture. Voilà. C'est comme ça que je conclurai.
Eh bien maintenant, la parole est à vous. Je pense qu'un micro HF devrait pouvoir circuler dans la salle.
Bonsoir, d'Istanbul. Bon, j'apprends ce soir que ici, en Marseille 2013, on a plus de 2000 projets. Est-ce que on peut dire qu'on va mettre peut-être 10%, mettons, je sais pas, 200 projets pour les quartiers? Voilà, merci.
Moi, je suis pas très favorable à donner des quotas, de dire 10% des projets pour les quartiers défavorisés ou 52 projets pour des projets réalisé par des femmes, parce que c'est la répartition des femmes dans la société, etc. Moi, je parle plutôt du fait qu'on va essayer à réaliser des bons projets, alors les meilleurs projets, vraiment une compétition des idées. Et s'il y a même 20% des idées qui se réalisent dans les quartiers défavorisés parce que ce sont des bons projets, il n'y a rien à dire contre. Alors les quotas, de dire 10% pour ça, 15% pour ça, c'est, à mon avis, c'est pas une bonne approche.
Donc, je m'adresse à Boris Brésillon. Vous avez commis un livre, je ne sais pas si vous en rappelez, sur Berlin. Et vous faites apparaître de façon magistrale la personnalité les composantes de la personnalité de Berlin, hein, parce qu'une ville, c'est une personne. Peut-être êtes-vous en train de faire la même chose, si vous êtes la source, peut-être que vous êtes en train de faire la même chose sur Marseille. Ou si vous apprêtez à le faire, vous découvrirez que dans la personnalité de Marseille, la culture est une composante énorme. Parce que sinon, comment cette ville survivrait avec toutes les difficultés qu'elle a? Et vous verrez que la partie non formelle de la culture, avec de tout petits moyens, avec une communication très souvent inexistante, où on apprend ce qui s'est passé uniquement par les réseaux, que cette culture, elle ne demande qu'à émerger, et vous pouvez peut-être passer une soirée avec Monsieur Ulrich Fuchs. Voilà, une deuxième, et aller voir ensemble ce magnifique film-reportage qui s'appelle « Nous, princesse de Clèves ». Et là, vous aurez une réponse. Qu'est-ce que c'est que la culture à Marseille, et qu'est-ce qu'elle peut apporter à ceux qui la consomment, comme nous, qui découvrons ce que ces jeunes sont capables de faire, et ce que ça apporte à ces jeunes? Et ce visage de Marseille, si inconnu et pourtant si fort dans notre personnalité marseillaise, j'espère qu'elle va, vous allez vous en inspirer et qu'elle va vous toucher, parce que vous avez autour de vous déjà matière à faire énormément de choses. Et surtout, Monsieur Fuchs, allez dans les quartiers de Marseille. Il y a des associations à plus soif, et vous verrez, vous allez être émerveillé de semaine en semaine. Je vous encourage à le faire, vous allez y trouver du bonheur, et vous allez vous dire, mais au fond, c'est ça qu'il faut qu'on offre à l'extérieur. Voilà.
Ulrich Fuchs, allez dans les quartiers, vous y allez.
Oui, mais c'est ce que j'ai... Alors, je ne peux pas dire, j'ai tout vu, mais c'est ce que j'ai déjà fait. On a, à partir du mai 2010, j'ai fait pendant des mois des balades urbaines et des rencontres avec des gens qui travaillent dans des quartiers. Alors comme ça, j'ai pas seulement réalisé la navette entre mon appartement et l'autre côté du Vieux-Port, la maison diamantée. Je veux pas dire que je connais Marseille, mais j'ai quand même essayé à faire un effort pour voir les forces de cette ville, mais aussi les faiblesses. Et ça, c'est peut-être exactement l'enjeu, de donner une visibilité aux forces de cette ville et travailler sur les faiblesses.
Deux mots pour vous répondre, monsieur, de Boris Grésillon, et puis on passe à une autre question.
Oui, vous avez la gentillesse d'évoquer le travail, le livre que j'avais écrit sur Berlin Métropole Culturelle. Si vous voulez, aujourd'hui, j'aurais pas la prétention d'écrire un livre équivalent sur Marseille, tout simplement parce que je reste très humble, moi, avec Marseille. C'est une ville qui m'échappe encore beaucoup. J'ai beau fréquenter différents lieux comme celui-ci à l'Alhambra, je dois avouer que j'ai encore du mal à comprendre, après 10 ans de vie à Marseille, donc plus que les 7 ans que j'ai passé à Berlin, j'ai encore du mal à comprendre comment cette ville fonctionne, pour une raison très simple, c'est ce que vous avez dit, à savoir qu'on sent, mais confusément, qu'il y a plein de choses qui se passent partout, mais c'est invisible, et c'est rendu invisible, il faut quand même le dire, par le politique, qui ne sait pas qui il administre, et qui sait très bien quelles associations il arrose de subventions, mais au-delà de ça, il ne se rend pas compte de ces énergies que moi, en tant que géographe sensible aux énergies créatrices, je sens, mais uniquement confusément. Donc de là, avoir la prétention d'en écrire un livre, je ne l'ai pas, cette prétention, je ne m'y risquerai pas. Par contre, je vous suis tout à fait. Mais c'est très difficile. Il faudrait, dans l'idéal, il faudrait réussir à trouver ce lien. Il faudrait, en gros, je vais être encore plus rapide, que Marseille-Provence 2013 arrive à capter ces énergies, mais à les faire sortir aussi de cercles parfois très étroits. Parfois, vous le dites, c'est un centre social ici, c'est une bibliothèque de quartier là, c'est des choses finalement qui sont organisées par eux, mais dont nous ne sommes pas tenus au courant. Et c'est très étrange, Marseille, parce que de la ville, des villes d'Europe que je connais, j'en connais pas mal. C'est sans doute celle où j'ai l'impression qu'il se passe peut-être le plus de choses, mais où j'en sais le moins. Donc je reviens toujours à ce degré d'invisibilité de l'art et de la culture. Et c'est assez troublant. Bon, on peut dire que c'est ce qui fait le charme de Marseille, mais c'est aussi difficile, du coup, j'imagine, je me mets à la place des gens de 2013, c'est difficile d'en faire une programmation culturelle.
Une autre question, monsieur ?
Oui, bonsoir. Je voulais rebondir sur les définitions de Bruno Le Dantec de la culture, donc de ces deux définitions dans lesquelles je ne me retrouve pas, en fait. Je me sens ni attiré par une vouloir servir une culture d'en haut, et je me sens un peu plus proche de la culture de la rue, mais en même temps j'ai envie d'apporter mon grain de sel, donc je suis mal à l'aise avec cette bipolarité. Et j'ai plutôt l'impression que l'homme est un animal culturel et que la culture, c'est une manière d'être au monde. À côté de ça, il y a une activité, un champ social, une activité sociale qui prend le nom de culture. Là, il y a la fonction de ce champ-là il y a de nombreuses fonctions. Il y en a une que j'ai pas entendu évoquer ce soir Ça me manque. Dans un écosystème vivant, il y a des populations, et en général, quand il y a une crise, on vit des crises en ce moment, on vit des crises majeures, et quand il y a une crise, ce qui fait qu'une population, qu'une espèce va passer à travers la crise, c'est souvent sa diversité. Et il me semble que, en tout cas à mon goût, une des fonctions essentielles de la culture comme activité sociale, c'est de maintenir, d'entretenir, de stimuler une diversité culturelle. Au-delà de faire... c'est pas la même chose que faire du lien, quand même. Alors, en même temps, ce désir de faire de la diversité, de l'entretenir, de la diversité culturelle, on le sent bien chez les gens qui sont les professionnels de la culture, et qui cherchent des projets innovants, qui... Et en même temps, le pouvoir a peur de l'innovation. L'innovation, ça pourrait être quelqu'un d'autre à la place du pouvoir. Et la question que je me pose, que je vous pose, et à mon avis, un des enjeux de ces capitales européennes de la culture, c'est comment aménager cette nécessité de diversité avec la frilosité du pouvoir. Quels outils, quels sont vos outils pour ça ?
Qui veut répondre à monsieur ? Bruno, peut-être, pour commencer.
Il ne faudrait pas mal me comprendre quand j'ai fait cette séparation comme ça entre les deux concepts de culture. Je n'oppose pas de manière manichéenne les deux. Je parlais d'enjeux locaux. Et après, bien sûr, que tu as parlé de diversité, de créativité. Ouais, c'est inhérent à la vie et c'est vital. Je sais pas, en t'écoutant parler, je me suis rappelé, parce que j'y ai participé, par exemple, au petit carnaval de la Plaine. C'est un carnaval auto-organisé, sans pratiquement aucune subvention, qui a récupéré une tradition qui avait disparu. Et dans un pays comme la France, s'amuser dans la rue. Et je ne parle pas de regarder des chars comme dans le carnaval de Nice, regarder des chars et dire qu'est-ce que c'est beau, puis repartir à la maison. Là, on parle de gens qui s'amusent dans la rue et qui agissent. Ça en devient, dans un pays comme la France, aussi policé dans tous les sens du terme. Ça en devient subversif. Quoi. Voilà, un exemple quoi, pour dire que je ne suis pas du tout allergique à l'activité culturelle en soi ou au fait d'être créatif et ludique.
Ouli Fuchs, alors justement les outils en réponse à cette question, monsieur.
Alors concernant cette question de la diversité, je suis tout à fait d'accord avec vous, je crois. C'est un objectif pour la programmation que je me donne de créer une diversité culturelle. Alors peut-être un exemple assez concret, avec l'expérience que j'ai un peu pendant ma vie professionnelle accumulée, j'ai invité à Linz un artiste marseillais parce que j'ai vu son travail et je me suis dit, alors ça c'est un travail que je trouve extraordinaire, ça n'existe pas en Autriche, un tel travail. Et je me suis dit, alors ça serait bien d'inviter cet artiste de Marseille, qui travaille d'ailleurs à la Friche Belle de Mai, et qui est très peu connu à Marseille. Mais il a réalisé un travail à Linz sur la question de l'immigration. D'ailleurs, les gens de Linz, les gens qui travaillent dans les théâtres de Linz, dans les réseaux, au début, ils n'étaient pas vraiment contents, parce qu'ils ont dit, mais la capitale, c'est à nous. Il faut nous donner les subventions et pas à un gars en France. Et ça, c'est peut-être un peu la réponse pour l'objectif d'une capitale. Alors, il faut trouver cet équilibre entre la visibilité de la diversité culturelle de Marseille, mais pas que ça. Il y a aussi l'intérêt d'accueillir des gens de l'extérieur, de l'autre côté de la Méditerranée, avec des jeunes, des artistes émergentes après les révolutions qui se passent là. Mais peut-être aussi un gars de Linz, parce qu'il réalise quelque chose dans sa ville qui est inconnu ici. Comme on a invité Jean-Michel Prière à Linz pour réaliser là un projet sur la question de l'immigration. Ça, c'est ma vision.
Alors peut-être rapidement, parce qu'il y a encore un film à projeter ce soir et qu'on a pris évidemment beaucoup de retard. Alors, donc peut-être le mot de la fin.
Un rêve, quelque chose peut-être partagé par beaucoup de Marseillais et autres. Marseille a une particularité, c'est une terre d'accueil d'exilés depuis très longtemps. Et c'est une terre d'accueil de douleurs majeures. Et je pense à deux douleurs qui sont gravées dans l'histoire de notre ville. C'est la douleur des Arméniens, c'est la première ville d'accueil des Arméniens. Et c'est, je me permets de le dire parce que je sais qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait en Turquie là-dessus. Et peut-être qu'on va se retrouver. Et puis la deuxième, ce sont les pieds noirs. Alors, est-ce que Marseille 2013, ça peut pas être un pas, une passerelle entre nos amis arméniens et turcs et entre nos amis maghrébins et pieds noirs?
Alors, ça serait très simple de justement de vous répondre oui, on va faire ça. Mais ça, c'est... Voilà, c'est très compliqué. Exactement. Et encore une fois, une expérience. Alors, il y a, dans la ville où j'ai travaillé, il y a comme j'ai dit, c'est une ville avec une hypothèque très très lourde sur le fascisme. La ville parraine de Hitler. Hitler voulait faire de Linz une capitale européenne de la culture. Fin de la citation. Vous pouvez vous imaginer ce que ça veut dire pour nous, comme manager, de travailler sur une capitale européenne de la culture avec ce mot de Hitler. on a découvert, c'est une ville de gauche, alors tous les élus, la politique est convaincue, on va travailler sur cette histoire, etc. Mais ce n'est pas tant facile de trouver un bon moyen pour ça. Et je voulais juste dire, alors je propose, je partage tout à fait votre proposition, mais maintenant, il faut regarder si on trouve un artiste, un créateur, parce que ce n'est pas nous. Nous, on ne réalise pas des projets, nous ne sommes pas des créateurs. Alors, ça veut dire qu'il faut regarder si on trouve quelqu'un, un artiste, une structure culturelle, qui est capable de nous proposer une façon comment on peut travailler sur cette question que vous avez très justement posée.
Merci Ulrich Fuchs, merci Yeshim Yalman, merci Bruno Le Dantec, merci Boris Grésion, merci à Julie Demuer pour la traduction. Je vous rappelle que la soirée continue avec la projection de Killink, un film dont je ne me souviens plus le réalisateur, mais qui va clore cette soirée en images.
Radyo yaptık, açık radyo yaptık, değil mi?
Sanat bir yerde görünmezi dışarıya çıkarmak için bir uğraştı.
Birdir peygamber hak, Rabbil alemin mutlak.
Tamam anne ben diyeyim.
Senlik, benlik nedir bırak söyleyeyim geldi sırası. Kürdü, Türk'ü, Neşerkez'i, Vaba'yı.